Alors, on est dans un marché qui est caractérisé par une hausse importante des matières premières et on a la chance d'être avec Jean-François Fourthe qui préside Truffle Capital. Jean-François, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes toujours illustré comme quelqu'un qui faisait beaucoup d'affaires avec l'Afrique et le Maghreb. Vous avez été, je crois, les premiers à faire une introduction en bourse sur la bourse de Casablanca. Vous avez été les premiers à faire une émission d'OC sur cette même bourse. Quels sont aujourd'hui vos projets africains?
Alors aujourd'hui, fort de notre expérience au Maroc, qui aujourd'hui est devenue notre plateforme d'expansion sur l'Afrique, plutôt je dirais l'Afrique francophone, nous avons fait des inroads, comme on dit, sur d'autres pays nord-africains et l'Afrique de l'Ouest. Nous avons signé le mois dernier des accords très importants en Mauritanie pour nos permis uranium et nous avons effectivement obtenu des permis or sur des zones très intéressantes en Côte d'Ivoire.
D'accord. Alors, première question sur la Mauritanie. Comment est-ce qu'on fait du business avec la Mauritanie lorsqu'on est basé en France?
Alors, la première chose en Mauritanie, avoir le bon partenaire. Nous avons eu la chance de nous associer avec le plus grand acteur du BTP en Mauritanie, qui est le groupe Azizi, qui nous a permis de rentrer à 50-50 dans des joint ventures, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une présence en Mauritanie très sérieuse.
D'accord, donc vous parliez de permis uranium. Donc ça veut dire qu'un peu sur le modèle chinois, on s'associe avec un partenaire local. On est obligé de s'associer avec un partenaire local?
Je pense que aussi bien nous avons réussi dans les autres pays à être directement et seuls impliqués, et en Mauritanie, nous avons choisi la voie du partenaire local à 50-50.
Et pour obtenir, vous nous disiez, des permis uranium. Ça
Exact.
veut dire qu'on exploite une matière sensible, s'il en est. Comment est-ce qu'on organise finalement la concession ou le droit à produire ou à extraire de l'uranium dans un pays comme la Mauritanie, qui est un pays relativement fermé, je crois qu'on peut le dire.
Oui, mais la Mauritanie est un pays qui a un droit minier qui est tout à fait correct, qui est très très bien établi, avec des archives et des références qui sont complètement standards. L'uranium en tant que minerai n'est pas aussi sensible que ce qu'on peut croire. C'est l'uranium enrichi qui a des sensibilités importantes et c'est ça qui coûte très cher. Par contre, produire du minerai d'uranium est à la portée de beaucoup d'entreprises.
D'accord. Mais ça n'était pas à la portée de votre partenaire local, le groupe de BTP Azizi.
Voilà, donc effectivement, on s'est appuyé sur un groupe de BTP qui a l'infrastructure, qui a les emplois, qui sait réaliser des infrastructures, parce qu'effectivement, nous sommes sur une propriété très importante, uranium en Mauritanie, qui est assez éloignée de la mer, et donc il y aura besoin de beaucoup d'infrastructures pour pouvoir l'exploiter.
Pour pouvoir le router, pour pouvoir l'expédier. D'accord. Ensuite, cet uranium, on en fait quoi?
Le minerai d'uranium est un produit, est une commodité qui est vendable sur le marché spot
Donc il y a un marché
international.
spot international organisé, c'est pas un marché réglementé.
Le minerai d'uranium ne fait l'objet
Aucune
de beaucoup moins de
restriction,
restrictions
ouais.
que l'uranium enrichi,
L'uranium
évidemment.
enrichi, d'accord. Et alors, est-ce que vous avez trouvé des différences de mentalité dans le travail que vous avez fait en Mauritanie par opposition à ce que vous aviez fait dans d'autres pays d'Afrique, par exemple?
Alors, on a découvert la culture mauritanienne, qui est un pays très intéressant, avec des gens merveilleux, beaucoup de talent, avec une volonté farouche de travailler avec nous, et des mobilisations locales qui nous ont beaucoup encouragés.
D'accord. Quelle image projette la France dans ces pays-là?
Il faut dire que la France était présente dans ces pays-là depuis très longtemps, donc elle est historiquement présente. C'est vrai qu'il y a eu un éloignement de la culture française sur les quelques années qui ont passé, mais je pense que la population a une certaine culture française, ou bon, je pourrais dire même biculturelle, mauritanien, homme du désert et français.
D'accord. Est-ce que vous avez d'autres projets en Mauritanie?
Nous aimerions travailler sur d'autres minerais et je pense que nous allons pouvoir faire des publications dans les prochains mois sur d'autres minerais que nous recherchons là-bas.
écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et puis alors, si on descend un petit peu, vous évoquiez également une implantation en Côte d'Ivoire, alors qu'on est en pleine actualité concernant ce pays. Vous pouvez nous en dire plus ?
Alors, la Côte d'Ivoire est un merveilleux pays. C'est un grand pays de commodities. C'est un pays qui joue un rôle central en Afrique de l'Ouest. Les événements qui le frappent actuellement est malheureusement une répétition de ce qui se passe depuis 2002 sur une, je pourrais dire, une répétition du coup d'État qui s'est passé là-bas en 2002. Maintenant, il reste quand même que la Côte d'Ivoire est un pays de ressources, aussi bien agricoles que de commodities minières ou pétrolières.
Bon, on verra si la suite de l'histoire confirme la répétition de 2002 que vous évoquiez. Au plan du business, au plan opérationnel, c'est compliqué de monter des opérations en Côte d'Ivoire ?
Alors, nous sommes très bien implantés là-bas. La Côte d'Ivoire est quand même un pays qui fonctionne, qui marche. Le couvre-feu, évidemment, a un impact sur l'économie. Les sanctions internationales ont un impact sur l'économie. Il est vrai que ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire a des sanctions internationales. C'est un pays exportateur. Nous sommes des exportateurs. À partir du moment où on exporte, on arrive toujours à travailler. Je pense que nous sommes très bien implantés là-bas et que nous pourrons continuer nos opérations là-bas dans le long terme.
D'accord. Et alors, en parlant de vos opérations, quel genre de ressources vous exploitez là-bas ?
Donc, nous sommes sur des mines d'or, des minerais. Et aussi bien en exploration qu'en production.
Qu'en production, d'accord. Alors plus généralement, sur le marché de l'or, on a eu une once d'or qui est passée en relativement peu de temps d'un niveau relativement symbolique aux alentours de $400 à $1300 aujourd'hui. Quelle est, en tant qu'expert, votre appréciation et sur ce parcours et sur l'avenir ?
Alors loin d'être un expert, hein, nous sommes positionnés essentiellement sur l'argent, qui suit l'or d'une façon très fidèle depuis toujours. Donc on peut faire un petit ratio de 25 à 1 entre l'or et l'argent. Nous sommes aujourd'hui responsables de 1% de la production d'argent dans le monde et nous avons 3% des réserves d'argent mondiales. Nous avons quelques permis or et une toute petite production or que nous arrivons à distiller de pays comme le Niger et le Maroc et la Côte d'Ivoire. Effectivement, notre stratégie est en train de se prouver, notamment par rapport aux couvertures que nous avions faites, la bonne.
D'accord. Et alors, sans vouloir rentrer dans le secret des dieux, qu'est-ce qui fait, lorsque vous débarquez dans un pays, même si vous y êtes déjà implanté, qu'est-ce qui fait qu'on va vous concéder le droit d'exploiter une zone aurifère plus qu'à un des grands players du secteur ?
Alors, il y a un droit minier dans ces pays qui ressemble beaucoup au droit minier français. Le BRGM était là bien avant nous et je pense que ça a été calqué. Le droit minier de ces pays-là a été calqué sur le droit minier français. Nous avons simplement suivi le droit minier français, le droit minier de ces pays-là. Et nous nous intéressons à des productions qui sont peut-être moins importantes que des grands groupes comme Rio Tinto ou Xstrata. Donc eux s'intéressent qu'à un minimum de production. Nous, on peut intervenir sur des productions plus faibles qui durent moins longtemps, mais qui sont tout aussi profitables.
D'accord. Et alors là, vous allez structurer finalement l'exploration et l'exploitation avec des partenaires locaux, de façon autonome
Alors, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Algérie ou au Maroc, nous sommes allés là-bas en direct. Mmh. Et la Mauritanie est le seul exemple où nous avons pris des partenaires locaux.
D'accord. Ok, parce que pour nous, Truffle Capital, c'est quand même plus au départ un fonds d'investissement. Donc comment est-ce qu'on arrive à monter une équipe opérationnelle qui va exploiter des zones aurifères ?
Alors, on s'est basé sur des technologies que nous avons aidé à développer au sein de notre fonds, des technologies d'extraction minière qui fait qu'aujourd'hui, on travaille avec des grands laboratoires comme l'ENSIASET ou comme Mintec en Afrique du Sud, qui nous ont permis de développer des procédés d'extraction qui fait que des mines qui n'étaient pas rentables dans le passé, avec les technologies que nous avons développées, font qu'elles sont rentables. Alors nous sommes passés d'un business model où nous avions la technologie d'extraction à un business model où nous utilisions cette technologie d'extraction pour extraire des minerais qui avant n'étaient pas rentables.